Laudetur Jesus Christus.
L'Union européenne officialise l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine. Pendant ce temps, l'armée ukrainienne passe à l'offensive et attaque la Russie avec des drones. Plus d'une centaine d'appareils ont été détruits par la défense russe. La guerre en Ukraine pousse les pays scandinaves à s'organiser. Ils vont créer un corridor en mer Arctique qui les relie pour assurer le transport militaire. Une initiative qui répond à l'augmentation des tensions avec la Russie. Le cardinal Ambongo fustige l'absence de réaction de la communauté internationale et l'inertie des autorités congolaises face aux massacres répétés de civils dans l'est de la RDC. Nous entendrons à ce sujet l'archevêque de Kinshasa. Le nouveau président sénégalais en France, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré son homologue Emmanuel Macron. Son intention était de donner de nouvelles impulsions aux relations franco-sénégalaises.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. L'Union européenne confirme donc l'ouverture de négociations d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie. L'annonce a été faite par la présidence belge du Conseil de l'Union européenne ce matin. Ces négociations pour rejoindre les 27 commenceront formellement mardi prochain. En attendant, sur le terrain, les combats se poursuivent. L'Ukraine a notamment envoyé la nuit dernière plus d'une centaine de drones sur le territoire russe. Olivier Bonnel.
La Russie assure avoir neutralisé pas moins de 114 drones ukrainiens qui ont visé notamment plusieurs raffineries dans le sud-ouest du territoire russe. Une personne a été tuée par la chute de débris d'un drone dans la région de Krasnodar. À Moscou, le ministère de la Défense a souligné dans un communiqué que les systèmes de défense antiaérienne ont intercepté et détruit 70 drones au-dessus de la Crimée. Ces frappes de Kiev en territoire russe sont de plus en plus fréquentes et se font en représailles au bombardement continu de l'armée russe sur le sol ukrainien, visant en particulier des infrastructures énergétiques du pays comme cette centrale électrique avant-hier. L'armée russe a dans le même temps intensifié ses attaques sur le front de l'Est, dans l'oblast de Donetsk. Pour y faire face, Kiev compte toujours sur ses alliés. Hier, les États-Unis ont annoncé avoir pris la décision difficile mais nécessaire de donner désormais la priorité à l'Ukraine par rapport à d'autres alliés en matière de livraison de missiles utilisés dans la défense antiaérienne. La Roumanie, de son côté, a aussi annoncé la livraison aux Ukrainiens d'un système de défense Patriot, un don, a précisé Bucarest, devant la nette détérioration de la situation sécuritaire en Ukraine.
Olivier Bonnel, la guerre en Ukraine toujours plus présente. En Asie, la visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord pourrait en fonder une alliance avec le conflit ukrainien en toile de fond, ne cesse de provoquer des remous dans la péninsule coréenne. Séoul envisage en effet d'exporter des armes vers Kiev en réponse à ce rapprochement entre Moscou et Pyongyang, ce qui a fait réagir la Russie, qui se dit prête du coup à envoyer des armes en Corée du Nord. En conséquence, le gouvernement sud-coréen a convoqué aujourd'hui l'ambassadeur de Russie au sujet de cet accord bilatéral afin de demander aux autorités russes de cesser immédiatement toute coopération militaire avec le régime nord-coréen et de se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, elle a permis à l'OTAN de retrouver sa vocation originelle, celle de se défendre contre une éventuelle attaque venue de l'Est. Elle a aussi poussé des pays traditionnellement neutres à rejoindre l'Alliance Atlantique, comme la Suède, qui avec la Norvège et la Finlande se sont mis d'accord pour créer un corridor de transport militaire en Arctique. Les trois pays scandinaves veulent faciliter l'acheminement de matériel et de personnel à travers leurs frontières dans un contexte d'accroissement des tensions avec la Russie. À Stockholm, Carlotta Morteo.
Depuis l'arrivée de la Finlande, puis de la Suède dans l'OTAN, la Norvège n'est plus seule face à la Russie en Arctique. L'accord de défense signé entre voisins hier à Bodø représente le premier acte d'un plan de défense commun qui doit permettre de mieux coopérer militairement. Jusqu'à maintenant, les trois pays nordiques avaient chacun pensé leur défense sur un axe nord-sud. Désormais, avec ce corridor logistique, c'est le déplacement ouest-est qui va être développé pour permettre de relier les ports norvégiens à la Finlande via la Laponie. Les trois pays vont devoir identifier ensemble les goulets d'étranglement, mettre à jour leur réglementation et investir dans les infrastructures pour garantir une mobilité militaire rapide dans cette région souvent enneigée où les conditions sont rudes. L'Arctique abrite la puissante flotte nucléaire russe, c'est un espace stratégique. Il s'agit donc d'être prêt en cas de crise dans le Grand Nord, mais aussi au cas où la mer Baltique deviendrait impraticable, c'est le scénario du pire. La péninsule nordique se retrouverait alors coupée du continent européen. Stockholm, Carlotta Morteo pour Radio Vatican. camps.
Après l'Espagne, l'Irlande et la Norvège récemment, c'est au tour de l'Arménie de reconnaître l'État de Palestine. Annonce faite ce matin par le ministère arménien des Affaires étrangères qui a insisté sur la situation critique à Gaza. Yerevan désire sincèrement l'avènement d'une paix durable dans la région et l'instauration immédiate d'une trêve dans le territoire palestinien, indique le ministère arménien des Affaires étrangères. La réaction israélienne ne s'est pas fait attendre. L'ambassadeur d'Arménie en Israël a été convoqué en vue d'une réprimande sévère par le gouvernement israélien. Jugement sévère de l'OMS à l'encontre de la pause quotidienne décidée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Elle n'a eu aucun impact sur l'arrivée de l'aide humanitaire à la population palestinienne, c'est ce qu'affirme l'Organisation mondiale de la santé. Théoriquement, cette accalmie concerne un tronçon routier d'une dizaine de kilomètres allant du point de passage de Kerem Shalom à l'extrémité sud de la bande de Gaza jusqu'à Rafah, et ce de 8h du matin à 19h, mais pas d'effet donc concret pour les civils. Cette accalmie est donc très limité puisque, par ailleurs, dans le reste de la bande de Gaza, les combats se poursuivent. Les Kenyans toujours mobilisés contre le projet de budget qui prévoit d'instaurer de nouvelles taxes, avec des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont dégénéré hier à Nairobi. Un homme de 29 ans a été tué. Cela fait plusieurs jours que des rassemblements ont lieu dans la capitale mais aussi à travers tout le pays. La mobilisation s'organise essentiellement via les réseaux sociaux hors de tout cadre politique et mobilise surtout la jeunesse du pays. La liste des morts s'allonge dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis le début du mois de juin, 150 personnes ont été tuées par les ADF, originaires d'Ouganda et affiliées à l'organisation de l'État islamique. Les attaques sont quasi quotidiennes et ce sont principalement les populations civiles qui paient le plus lourd tribut. Certes, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné ces massacres, l'Union africaine aussi. Le pape a interpellé les consciences dimanche dernier par rapport à ces combats et les nombreux chrétiens qui sont tués les qualifiant même de martyrs. Mais ce qui frappe surtout, c'est l'indifférence quasi générale de la communauté internationale et le manque de réaction nationale, comme le regrette le cardinal Ombongo, l'archevêque de Kinshasa.
Cela se fait dans une sorte d'indifférence générale de la communauté internationale. Même si la MONUSCO est là, personne ne sent qu'il y a une présence de la communauté internationale. La tuerie du peuple congolais n'émeut personne. Le déplacement massif de la population congolaise à l'intérieur du pays même et à l'extérieur laisse indifférent la conscience de la communauté internationale. Ce que je note au niveau du pays, c'est qu'il y a trop de discours, de déclarations, mais sur le terrain, il n'y a aucun effet. On nous parle de recrutement de nouvelles unités, achat de nouveaux matériels, le renforcement de notre armée. Ça fait déjà quelques années qu'on a imposé dans le Nord Kivu et dans l'Ituri l'état de siège. Mais les résultats, où il n'y a que des tueries.
Des propos recueillis par Stanislas Kambashi. Bâtir un marché africain du vaccin. Pour cela, plus $1 milliard ont été promis hier à Paris lors d'un sommet mondial pour accélérer la production de vaccins en Afrique, notamment contre le choléra qui sévit sur le continent. L'essentiel, les trois quarts en fait, seront financés par la Commission européenne. Présent à ce sommet, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, en a profité pour rencontrer et s'entretenir avec son homologue français. L'occasion pour le nouveau chef de l'État sénégalais de donner une nouvelle impulsion aux relations franco-sénégalaises. Et précision, Dan Bruensa.
Ce n'était pas une visite officielle, mais un déjeuner de travail qui a donné lieu à un long tête-à-tête entre les deux présidents et qui s'est prolongé pendant près de 2 heures jeudi 20 juin. Bassirou Diomaye Faye, le nouveau chef de l'État du Sénégal, avait officiellement fait le voyage à Paris à l'invitation du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale et s'est donc entretenu avec Emmanuel Macron en marge de ce forum. Le communiqué conjoint, publié à l'issue de cet entretien, indique ainsi, je cite, « que les deux chefs d'État ont exprimé leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France, fondé sur un respect mutuel, un partenariat équilibré au service des intérêts réciproques des deux peuples ». Élu le 24 mars dernier, M. Faye a remporté l'élection présidentielle avec un discours souverainiste et la promesse de rupture avec l'ancien système. Car Paris reste le premier investisseur étranger au Sénégal et le deuxième partenaire commercial après la Chine. Plus de 250 entreprises françaises y sont installées, contribuant à près du quart des rentrées fiscales du pays. Anne Proenza pour Radio Vatican.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h heure de Rome. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.